Rav Yudan dit au nom de Shmuel, Masvurim bnei Noach. Qu'est-ce que les fils de Noach pensaient? Chez Britan, Kruta, Omelet Lahad? Est-ce qu'ils pensaient que l'alliance qui a été conclue avec eux, est-ce que c'est une alliance qui a été tranchée, donc qui a été conclue pour l'éternité? Et la kol zman shehashamayim va'aretz kayamin britan kayemet le kshayavo oto yom. Mais donc tant que il y aura le ciel et la terre, donc tant que ça durera cet ordre du monde là, leur alliance durera. Et lorsque viendra ce jour, le jour au sujet duquel il est écrit ki shamayim ki ashan nimlachu והארץ כבגד תברא, ואותה שעה, הסמומון לה, ספליקחה ותופר ביום ההוא, etc. אל שכה, לאליאנס שרה רומפו. דונק, en réalité, effectivement, l'alliance va durer tant que le ciel et la terre vont durer. Mais il y a, dans la névoie des Yeshayahu, on parle de cieux qui vont disparaître, Kiachan Nimlachu, qui vont disparaître comme de la fumée, et où la terre va s'user, Tivle, Kabeged, comme un vêtement qui s'use. À ce moment-là, l'alliance sera rompue, comme c'est le pasouk dans Zecharia. Bon. Amar Ravacha dit Mi garam laem che yimredoubi. Qu'est-ce qui les a entraînés à se révolter contre moi? Donc, dit Hachem. לא על ידי שהיו זורים ולא קוצרים, יולדים ולא קוברים? N'est-ce pas? Parce que justement, ils semaient et qu'ils n'avaient pas à coutre, ils n'avaient pas à moissonner, qu'ils avaient des enfants qui ne mouraient jamais, qu'ils n'avaient pas à enterrer. Alors, dit Hachem, dans ce nouveau monde d'après le déluge, Mikan ve'elach, zera ve'katsir. Désormais, il y aura semaille et moisson. Il y aura naissance et enterrement. Froid et chaud. Pardon? Non, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'était la période avant le déluge. Et maintenant, il dit désormais, après le déluge, il n'y aura plus cette situation où on aura l'éternité, où effectivement les choses vont pousser, mais sans aucun travail, quoi. Quelque part, ça va. Oui? Il y avait, c'est ça. Avant le déluge, il n'y avait pas ça. Ça, c'est peut-être le futur, c'est peut-être un futur ultérieur. Il y aura des. Que je me suis arrêté. Ah oui, Chama, dont des fièvres, Ve'achavit, des frissons, Kaitz, Vachorev, été et hiver. Alors, l'été, oui. Mekaitz ani alehem et haof echma de atamar. Ici, je vais donc, je vais traduire ici, je vais lâcher sur eux les rapaces l'été. Comme dit le Pasouk dans le Navi Yeshayahu aussi, que il dit Vekat salav ha'ait v'chol bemat ha'aret salav techeraf. Les rapaces y passeront l'été et toutes les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Choref. מה זה היה באחד מגדולי הדור שהיה חושש את ראשו מה רפורט quelque chose d'un des grands maîtres de la génération qui avait donc mal à la tête littéralement ואידה אמר רב שמואל בר נחמן היה certains disent que c'était רב שמואל בר נחמן Donc, Omer, Chamei, Ma Avad Lan, Dara de Maboula. Et donc, quand il a dit, Chamei, c'est-à-dire, voyez ce que nous a fait la génération du déluge. Donc, son mal de tête, il disait, ça vient du déluge. Enfin, la génération du déluge. Davar Acher, autre lecture. Od kolimea aretz. Autre lecture. Tant que durera donc la terre. Ravuna b'shem ravacha. Masvurim b'nei noach. Shebritan kruta v'omedet la'ad. Même question donc. Est-ce que les b'nei noach, qu'est-ce qu'ils pensaient que leur alliance allait durer éternellement? Kach amarti la'em. J'aurais pourtant dit. Od kolimea aretz, etc. Ça ne durera que le temps que durera la terre. Et la kolzman she hayom ve'alayla. Kayamin, tant que le jour et la nuit existeront, britan kayemet, ukshiyavo oto hayom shekatuv. Mais quand viendra le jour, au sujet duquel il est écrit, vaya yom echad, ou ivada l'Hashem, lo yom ve'lo layla. Lorsque viendra ce jour que seul Hachem connaît, où il fera ni jour ni nuit, alors ce jour-là, l'alliance sera rompue. Ce jour-là, l'alliance sera rompue. Amar Rav Yitzchak migaram lahem sheim redoubi. Qu'est-ce qui a fait que les hommes se sont révoltés contre moi? Lo al shen zorim velo kotrin. N'est-ce pas que ils sèment sans avoir à moissonner? D'Amar Rav Yitzchak achat l'arbaim shana ayu zorim. Rav Yitzchak dit que une fois tous les 40 ans, il semait. Ou ma'alchin, isof ha'olam va'atsofo le sha'akala. Et il se déplaçait d'un bout à l'autre du monde en très peu de temps. Ou ma'kleshin, arzel vanon ba'alichatan. Et ils arrachaient des cèdres du Liban sur le passage. Donc ils avaient une puissance fabuleuse. Vayu arayot unemerim chashuvim b'enehem kenima bivsaro. Et ils n'avaient absolument pas peur donc des bêtes sauvages, parce que les lions, les tigres, les panthères, étaient aussi effrayants à leurs yeux comme que Nima Achat, c'est un nœud, enfin, où, hein, sur leur, donc c'est un poil sur leur chair. Aketsad ayalahem avir yafe kemina pesach v'adatzeret. C'est-à-dire, il y avait toujours un temps qui était comme un temps très agréable, comme le temps qu'il y a entre Pesach et Atzeret, entre Pesach et Shavuot, le meilleur temps, c'est-à-dire ni trop chaud ni trop froid. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Meir, Vechen haya Rav Dosa Omer, Kidvarav. Donc Rabban Gamliel dit au nom de Rabbi Meir, et Rav Dosa disait la même chose. Chatzi Tishri Omer Cheshvan, Vechatzi Kislev Zera. La moitié du mois de Tishri, le mois de Cheshvan, et la moitié du mois de Kislev, c'est le temps des semailles. Chatzi Kislev Vetevet Vechatzi Shvat. Donc la moitié, la seconde moitié de Kislev, le mois de Tevet, la première moitié de Shvat, c'était l'hiver. Chatzi Shvat ve'Adar ve'Chatzi Nissan, moitié de Shvat, deuxième moitié donc, le mois d'Adar et la moitié de Nissan, c'était le froid, corps. Et Chatzi Nissan ve'Iyar ve'Chatzi Sivan Katsir, les moissons. Chatzi Sivan ve'Tamuz ve'Chatzi Av Kaïtz, l'été, Chatzi Av ve'Elul ve'Chatzi Tishri, Chom, chaleur. Rav Yehuda monnaie mimar Cheshvan. Rav Yehuda y comptait depuis Cheshvan et pas depuis Tishri. Rav Shimon matril mi Tishri. Rav Shimon y prenait tout Tishri. Amar Rav Yochanan, lo shimshu mazalot kol yud bet chodesh. Et Rabbi Yohanan dit que les planètes ne fonctionnaient pas pendant les 12 mois. Certains disent que c'est les 12 mois durant le déluge, on va voir. Amar lo Rabbi Yonatan, Shimshu et la Sheloya Rishuman Nikar. Ils ont fonctionné normalement, seulement on n'en voyait pas la trace. Rabbi Lezer, Rabbi Yoshua, Lezer Omar, Lo Ishbotu, Lo Shoftu, Lo Shoftu, Yoshua Omar, Lo Ishbotu, Miklal, Sheshoftu. Alors Rabbi Lezer dit, comme on dit, jour et nuit ne cesseront pas, ça veut dire qu'ils n'avaient pas cessé, ils continueront de ne pas cesser en quelque sorte. N'est pas cessé jusqu'au l'air, Rabbi Yoshua dit, ne cesseront pas, ça veut dire qu'ils avaient déjà cessé, maintenant ils cesseront plus, ne cesseront plus. Ça veut dire. Voilà, c'est notre texte. Texte un peu difficile à pas expliquer, mais quel est l'enjeu dans ce midrash? Quel est le problème? Il semble que tout commence par une interrogation sur ce qui s'imaginaient les fils de Noé. Hachem a dit, je ne frapperai plus, j'enverrai plus de, il n'y aura plus de déluge. C'est une alliance. Hachem a dit, lo osif le kalel od et adam abavur adam. Je ne frapperai plus, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Qui Yetzer Lev Adam Raminehurav, parce que le Yetzara est là depuis la prime jeunesse. Lo Sif Od Leakot et Kolchai, Kasher Asiti, je ne frapperai plus tout le vivant comme je l'ai fait. Alors la question c'est quelle est la portée de ce je ne ferai plus. C'est une forme d'alliance ici. Alors le Midrash a l'air de s'interroger sur bon, qui est-ce qui se pose des questions. C'est les fils de Noar, c'est eux qui sont les témoins de ce qu'Hachem dit. Pourquoi est-ce qu'on dit les fils de Noar, pourquoi on ne dit pas Noar? C'est une bonne question. Pourquoi Noar il a entendu comme ses fils? Si la question est sur les fils, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sur Noar lui-même aussi? Alors les commentaires veulent dire ça ne marchera tant que la terre et le ciel seront en place en quelque sorte. Mais il y aura un changement. On ne sait pas qu'il n'y aura aucun changement, bonsoir. Il y aura un changement. Et cette alliance, elle sera rompue. Ce fameux verset dans Zechariah. Et au-dessus de. Avant ce verset, dit le Etzer Yosef, c'est écrit L'affaire Briti, Asher Karati, et Kola Amin. C'est-à-dire, on parle au-dessus de, dans le verset juste avant celui qu'on cite ici, on parle de la rupture de l'alliance que Hachem a faite avec tous les peuples. Ensuite, c'est marqué, Evetufar Bayomahu, cette alliance, elle sera rompue ce jour-là. Mashmale de Ainu Biyom Bitul Shamaim Vaaretz. Et le Midrash entend que ça veut dire lorsqu'il n'y aura plus ciel et terre. Chaz Tufar Brit Kol Ha'amim, c'est-à-dire le Brit de Noar. L'alliance qui est faite avec tous les peuples, c'est l'alliance qui est faite avec Noar, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas encore de singularité du clan Israël, bien sûr. Alors, bien entendu, qu'est-ce que ça veut dire ici que l'alliance sera rompue à la fin des temps, quoi. Il y aura eu un jour où il n'y aura ni ciel ni terre. La forme de l'interrogation est un peu surprenante. Qu'est-ce qu'il pense? Que ça sera éternel? Non, ce ne sera pas éternel. Quand il n'y aura plus de ciel et plus de terre, il n'y aura plus d'alliance non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y a plus de terre et plus de ciel, alors évidemment... Alors, le Marzou dans la colonne de droite lui dit Pshuto Mashma, Sheye et Shelote Kayemet. Donc, le pshat du verset, c'est qu'il y aura un temps où il n'y aura plus de terre. Comme c'est marqué dans le verset plus bas, Ve'aretz Kabeged Tivle, que la terre s'usera comme un vêtement s'use. Et c'est marqué au début, Kishamaim. Kachan Nimlachu, que les cieux, donc effectivement, vont disparaître comme de la fumée. Alors, il dit, Merumas me pasuk, alpi mida, avec la mida, la neuvième mida ici, Dvarim elu nasim al yede amazalot. Imeged Tvuot Shemesh ou Imeged Gerash Yerachim, c'est les psukim de Zot Abracha. Il pense chez Britan Kruta, bon, on voit Patufar Bayomahu, Pasuku Bezcharia, le Pasuk dit Vaekach et Makli et Noam, je prendrai mon bâton l'agréable. Vagadea otam l'affaire briti, asher karati, vatufar bayomahu. Et le Midrash dit-il, donc simplement Hachem dit, je frapperai et je les contraindrai en quelque sorte à rompre mon alliance, et cette alliance sera rompue effectivement ce jour-là. Le Midrash relie, dit-il, Pasuk ze le pasuk shebe Yeshaya. Parce que dans le pasuk de Yeshaya, c'est marqué il viendra un temps où l'alliance sera rompue. Et le pasuk ne dit pas quand ce sera. Et dans Yeshaya, c'est marqué explicitement qu'il viendra un temps où le ciel et la terre n'existeront plus. Et dans la Torah, c'est marqué que le brit dépend. L'alliance, elle a été faite avec des témoins qui sont Shamaim Vaaretz. Hachem prend à témoin le ciel et la terre pour cette alliance. Et ce qui est marqué dans le pasouk, Patufar Bayomahu, c'est cette alliance, elle sera rompue ce jour-là. C'est le jour où effectivement il n'y aura plus les témoins, il n'y aura plus ces témoins qui font tenir l'alliance d'une certaine manière. Et le Midrash nous apprend, dit-il, c'est que quand dans le verset il est dit Od Kol Yemei, chez nous dans le verset de. D'après le déluge, Ol Kol Yemei Haaretz, durant toute la durée de la durée de la terre, le Sheikh Lemala ou Aliede Abrit Shekara Timo, donc ça se réfère à l'alliance qui est citée plus haut, Abrit ou Achakar Vapar Shamiyuchelet, et l'alliance elle est explicitée plus bas avec l'alliance de l'arc-en-ciel. Achdat Chazal, Shabrit Vashvoa, Inyan Echad. Vashvoa, Niskeret de Pasuga Kodem. Chazal pense que le serment qu'Hachem fait et l'alliance qu'il va conclure avec au moment de l'arc-en-ciel, pour les Chachamim, ça va de pair, ça va ensemble, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire, Lo Osif le Kalel, je ne continuerai pas à maudire la terre, etc. Et le velo osif, od kol yemei, etc. Et la terre, elle aura aussi, la terre, le soleil, l'alliance en question, elle aura aussi un terme. Alors, on va essayer de comprendre un peu ce qu'ils veulent dire ici en regardant un peu la suite. Hachem a l'air d'expliquer ici que la raison pour laquelle le Maboul a dû être envoyé, il a dû envoyer le Maboul, c'est parce que ça allait trop bien, en quelque sorte, pour les gens. C'est-à-dire que les gens, ils avaient besoin de semer. Bon, mais semer, c'est pas très fatigant. Mais ensuite, il n'y avait rien besoin de faire, il n'y avait même pas besoin de moissonner. Si en quelque sorte, ça va dans le sens de. Il n'y a pas besoin de moissonner. Ce qui pousse va pousser jusqu'au bout et on aura quasiment des croissants sur les épis, quoi. Pas besoin de moissonner. Tu pourras directement. Le travail de la moisson, c'est tout un travail. Il faut couper, mais ensuite. On n'a pas besoin de ça. Ensuite, il y a l'autre lecture qui va même dire que même semer, on semait une fois tous les 40 ans. Ça suffisait. Et on dit, voilà, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, il y avait naissance, il n'y avait pas de mort. Alors Hachem dit, c'est terminé ça. Il y aura des semailles, mais il y aura toujours des semailles, mais à ce moment-là, il faudra moissonner, mais il y aura des moissons. Et on va aussi enterrer, pas seulement mettre au monde. Il y aura du froid, mais aussi du chaud. Il y aura des fièvres, des frissons. Il y aura de l'été, de l'hiver. Il y aura les rapaces en hiver, les bêtes en été, les bêtes sauvages, les bêtes, pardon, en hiver. Bon, bah, très bien. C'est l'ordre, quoi. Il y aura l'ordre des choses, l'ordre que nous connaissons. C'est ça qui va permettre de ne plus fauter, de ne pas se révolter contre Hachem. Normalement, on n'aurait pas dû avoir mal à la tête. C'est pour ça qu'il dit, quand il a mal à la tête, il dit, pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête? C'est à cause de la génération du déluge. Cette génération du déluge, elle a entraîné que j'ai mal à la tête. Oui, c'est la question que j'ai posée. Il semble que, disons dans ce Midrash, on a l'impression que il ne mourrait pas. Non. Oui, mais non. Il faut savoir quand il a vécu, jusqu'à quand il a vécu, et peut-être qu'on peut dire que c'est juste autour du déluge, au moment du déluge, c'est pas le déluge lui-même, mais c'est cette génération du déluge qui a amené la mort, etc. Non, il était déjà mort avant. Mais peut-être quand on est arrivé dans le voisinage du déluge, quoi, si vous voulez. Alors, les commentateurs disent, c'est pas comme ça. C'est pas qu'avant on n'avait pas mal. C'est-à-dire, c'est pas ça. C'est que maintenant, on a mal à la tête à cause d'eux. Pour que ça n'aille pas trop bien, en quelque sorte. Si on a mal à la tête, c'est pour que ça n'aille pas trop bien. En leur temps, il n'y avait pas de maux de tête, ça allait trop bien, donc ils se sont révoltés contre Hachem. Auparavant, ils étaient beaucoup plus forts et déracinaient des cèdres et considéraient les bêtes sauvages comme des quantités négligeables. Ça, c'était leur situation. Et c'est pour ça, semble-t-il, qu'ils ont fauté. Et ensuite, finalement, ils disent, mais finalement, toutes ces saisons, les saisons dépendent des mazalot, en fait, de façon générale, ça dépend du ciel. Et donc, si avant, on n'avait pas toutes ces saisons, est-ce que ça veut dire qu'avant, les mazalot ne fonctionnaient pas? On répond, si, ils fonctionnaient. Alors, il y a deux opinions. Une qui dit, effectivement, ils ne fonctionnaient pas. Ça veut dire qu'il y avait des mazalot qui ne fonctionnaient pas, mais en tout cas, elles n'avaient pas d'impact. Et l'autre dit, si, elles fonctionnaient, normalement, mais elles n'avaient pas de puissance, probablement, pour qu'on en voie la trace. C'est-à-dire, si vous voulez, il n'y avait pas de marée. Ou bien, effectivement, je ne sais pas comment fonctionnait la Lune par rapport à la Terre pour qu'il n'y ait pas de marée. Ou alors, effectivement, est-ce que le problème de l'attraction était différent? Est-ce qu'il y avait les règles de l'attraction étaient différentes? Ou la masse de la Lune? Ou je ne sais pas comment le décrire physiquement, bien entendu. Oui, ben c'est ça. Quand il dit Mazalot ne fonctionne pas, c'est ni le soleil, ni. C'est-à-dire, il visait, mais il n'y a pas. Tout ce qui est de l'ordre des trajectoires, semble-t-il, ne fonctionnerait, n'aurait pas fonctionné. Alors que cela n'ait pas eu le même impact que celui qu'on a aujourd'hui, c'est assez clair. Si on tient que. Si on pense que la. Chazal dit qu'on a enlevé trois tfachim sur toute la surface de la Terre. Donc la masse de la Terre a changé, donc toutes les trajectoires ont été modifiées. On n'est plus du tout dans la même situation que la situation d'avant le Maboul. Si le Maboul a enlevé trois tfachim, on est sur une autre trajectoire. La Terre n'est plus sur la même trajectoire que celle qu'elle avait autour du Soleil. Elle n'a plus la même masse. Donc si elle n'est plus à cette place, la Lune non plus, plus rien n'est à sa place, et c'est ça qui, d'après ça, qui aurait donné les saisons, en quelque sorte. Mais qu'auparavant, ça ne change rien, c'est simplement ça aurait été, c'est différent, mais qu'il y ait les saisons, normalement, il devait y avoir les saisons avant aussi. C'est pas que, dès qu'on a ces phénomènes de rotation et de trajectoire, on a des saisons. Mais peut-être qu'effectivement, les saisons n'ont pas le même impact selon qu'on est à cette distance ou à une autre distance du Soleil. Par exemple, où les marées, où l'impact de la Lune et des autres planètes n'est pas du tout le même. Bon, je ne sais pas du tout si c'est ça le raisonnement qu'il faut tenir. Bon, on n'est peut-être pas du tout obligé de tenir un raisonnement pseudo-scientifique ici. Bien sûr. En termes de temps, c'est-à-dire? Ça ne change rien, même si on le situe à peu près au bout du premier. Bon, il est avant Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est en gros l'an, c'est 1948, c'est l'an 2000, si vous voulez, c'est 1700 quelque chose, je crois, ou 1600 quelque chose. Oui. Ça, qu'est-ce que vous avez. Je ne vois pas trop bien en quoi ça va nous aider. Parce que même si vous avez des saisons, même si vous avez une rotation, des rotations qui prennent.
Clairement, ce que je veux dire, c'est que si ce phénomène s'est déroulé il y a 1500 ans, 5000 ans, je suppose que on a des possibilités scientifiques d'avoir une trace.
Je ne connais pas de traces du déluge. Alors, je ne sais pas s'il n'y en a pas. Moi, je n'en connais pas. Tous les, je ne sais pas combien, on retrouve un morceau de l'arche, mais je ne sais pas. Il y a de temps en temps quelqu'un qui dit qu'on a trouvé un morceau de l'arche. C'est pas une différence obligatoirement de densité, parce qu'on peut imaginer que c'est devenu aussi plus dense. Il y avait moins de... Peut-être... Oui, mais ça c'est... La couche, elle ne modifie pas la densité. La couche, elle va modifier la masse. Mais bon, alors, mais si la densité change, on peut tout changer. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'il en est. On peut imaginer que... Bon, on peut aussi penser que suivant où on est par rapport au soleil, ça va modifier effectivement la densité. Ce sera plus ou moins humide, ou, etc., en fonction du soleil. Mais bon, je ne sais pas si c'est très utile de réfléchir en ces termes. La question que je me pose ici, c'est qu'est-ce que le Midrash veut ?
Est-ce qu'il a l'air de dire qu'après la... après la sortie de l'arche, on est obligé de reconsidérer tout le fonctionnement du monde en termes de Yirat Shamayim et d'alliance. Peut-être qu'il y avait les mêmes phénomènes avant, mais les yeux humains, la compréhension humaine, ne pouvaient pas les voir dans ces termes-là.
Bon, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a l'impression qu'on présente comme si on présente les choses comme si le monde initial était un monde qui aurait dû durer tout le temps, et que désormais le monde, donc l'alliance, ne durera pas éternellement, mais parce que la terre et le ciel ne dureront pas éternellement. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé que l'alliance allait durer tout le temps, mais non, elle ne durera que jusqu'au moment où le ciel et la terre disparaîtront. S'il n'y a plus de ciel et de terre, quel peut bien être le sens de l'alliance?
En revanche, ça veut dire que l'alliance fait durer.
Que
l'alliance fait tenir.
Elle fait durer jusque-là. Mais elle n'ira pas. Donc elle fait durer toute la... Quand on dit, qu'est-ce qu'il pensait, ça allait durer tout le temps? Oui, ça allait durer tout le temps. Mais qu'est-ce que tu me dis maintenant? Ça va bien durer tout le temps, non? Ça va durer toute la durée du monde. Oui. Ça vous paraît évident, la question de savoir est-ce que c'est évident au Midrash? Est-ce que le Midrash veut dire ça? Mais qu'ils aient quelque chose à faire? Tant que les hommes voulaient dire. Oui, bon, mais donc. Mais c'est pas dit en ces termes, c'est dit que ça durera tant que le ciel et la terre dureront. Alors d'accord, le ciel et la terre vont disparaître un jour ou l'autre. Mais jusque-là, ça va durer. Donc, mais c'est ça tout le temps. Le Midrash s'interroge, il dit, qu'est-ce qu'ils pensaient C'est de la folie ce qu'ils pensaient, les Noirs. Ils pensaient que ça allait durer tout le temps. Pas du tout, ça ne va pas durer tout le temps. Mais ça va durer tout le temps. Qu'est-ce qu'on a pu penser? Qu'est-ce que ça veut dire que... Tout le temps. Est-ce que ça veut dire qu'ils croyaient que le monde serait éternel? Que l'idée de si maintenant on entre dans un monde avec des cycles, alors ces cycles-là sont, semble-t-il, obligatoirement limités. Donc s'il y a une cyclicité, c'est limité. On a l'impression que l'idée, c'est le cycle, c'est cette idée de quelque chose qui tourne, et donc avec des frottements, et la Terre va s'user à force de tourner, elle va s'user comme un vêtement qui s'use. Donc finalement, elle sera usée, c'est fini, et le ciel va aussi se, à force de se tirer dans tous les sens, avec, etc., le ciel va aussi disparaître comme quelque chose qui, il va se dissoudre, enfin, il va devenir très, comme il part toujours, il est toujours en train de partir, ce ciel, donc finalement il n'y en aura plus, quoi. C'est... Oui, mais c'est égal. Pour l'instant, on n'est pas en train de. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que c'est censé nous dire ici. Cette idée, c'est. On voit que toute cette idée de la cyclicité, elle va de pair avec une fin du monde, avec un monde qui s'use et qui disparaît. Et donc l'alliance, parce que le problème c'est comme ça, une alliance avec Hachem, étant donné que Hachem, c'est l'éternité divine, elle devrait donner l'éternité à l'alliance. Bon, c'est ça qu'ils auraient pu penser. Et Hachem dit pas du tout, j'ai déjà dit, j'ai déjà dans ma Torah, etc., des indications comme quoi ça ne durera pas l'éternité. C'est-à-dire que le monde ne sera pas éternel parce que je suis éternel.
Le monde est fini.
Est-ce qu'il n'y a pas dans la logique hybride, puisqu'il est fait avec l'éternité, qu'il implique l'éternité?
C'est exactement ce qu'on vient de dire.
Oui.
100%.
Bon, par exemple,
Bor Shekivanti, comme on dit chez nous. Mais l'éternité, vous savez, la notion d'éternité dans la Torah, c'est 50 ans.
D'accord, mais encore une fois, une par le brique et l'autre le partenaire.
Oui, mais c'est vrai.
La partie étant éternelle,
oui.
Dans la mesure où elle
conclut. Ça, c'est ce que nous avons dit. Oui. Nous avons dit effectivement que les Bnei Noir probablement ont pensé que puisqu'il y a une alliance avec Hachem, eh bien, ça veut dire qu'on est parti pour un monde éternel. Donc ce serait ça l'idée. Et Hachem vient et dit, un instant, le monde ne sera pas éternel. Bien que l'alliance soit faite avec moi, j'ai déjà dit que cette alliance, elle aura un terme. Je dis que l'alliance, elle ne durera pas au-delà de l'usure du monde. Le monde s'use de deux manières, par frottement comme un vêtement, et par, comment est-ce qu'il faut dire ça, par évaporation, littéralement. Bon, c'est donc, le monde ici s'épuise. C'est ça qu'ils doivent comprendre. C'est ça ce que le Midrash veut dire, que du coup, alors c'est pas simplement que le monde est un monde fini, parce que bon, à l'échelle de chaque individu, que le monde soit fini ou infini, ça change pas grand chose. Mais on a une expérience après. C'est Maase Shaya, le Maase. Il a mal à la tête. Il dit, regardez ce que cette génération du déluge nous a fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ici? Maintenant, ça on sait, voilà, ce qu'Hachem a dit aux Bnei Noir. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant, on était dans un monde éternel, qui aurait dû être éternel? C'est ça, effectivement. Il semble que, en tout cas, la perception qu'ils avaient du monde était la perception d'un monde qui était éternel. Et au fond, ça vient de ce que l'homme, initialement, devait être éternel. Comme toujours, probablement pour la même raison. Étant donné qu'il est tirkapav chez la Kadosh Baruch Hu, qu'il était créé par Hachem. Alors il aurait cette éternité de la création, le créateur lui aurait conféré, parce que c'est comme si Hachem fait des choses qui ne durent pas, c'est comme s'il y avait une imperfection chez Hachem, comme s'il ne pouvait pas faire exister les choses pour l'éternité. Et donc, probablement que les générations précédentes pensaient que non, c'est pas possible que le monde ne soit pas éternel. Alors, l'idée, c'est il y aura un déluge, parce que ça, ils en ont fait une théorie. Ah oui, tu annonces un déluge, oui, c'est vrai, toutes les 1700 combien, il y a un déluge. C'est-à-dire, ça ne nous affecte pas, c'est ça le cycle qui existe. Il existe un cycle de quasi-destruction du monde, mais le monde, c'est tous les, ça veut dire, le monde est éternel, de temps en temps, il y a un déluge, mais le monde reste éternel, tel quel. Et ce qui s'est passé, c'est que, en vérité, ce n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que le monde qui a été créé aurait pu avoir cette dimension d'éternité sans rien du tout, mais ce sont les hommes qui ont introduit la mort. Ils ont introduit la mort, donc la finitude dans le monde. Alors Adam a introduit la finitude de l'homme, et les autres, avec leur conduite, ils ont introduit la finitude du monde. Le monde lui-même est fini. Et Hachem dit, maintenant je ne frapperai plus parce que... Mais néanmoins, le monde sera un monde fini. C'est-à-dire l'alliance que je fais, ici, c'est une alliance. Et malgré l'alliance, ça sera fini.
Et alors, l'alliance de l'homme et Marie, si la terre va s'user comme un habit qui s'use. Il n'y a plus de substrat où Israël peut vivre.
Pourquoi pas? C'est jusque-là. Jusqu'à la fin du monde. Vous voyez bien que... On sait bien que le système solaire va se détruire, disons physiquement, la physique, et pourtant on vit aujourd'hui. Ça ne nous empêche pas de vivre aujourd'hui. Il ne faut pas s'angoisser parce que ça va se détruire. C'est-à-dire, mais c'est l'éternité. L'éternité d'Hachem, il peut la conférer, il peut en faire ce qu'il veut. C'est ça, bon, ok, mais ça ne touche pas son unité. Il crée des créatures qui auront ces... Oui, mais de toute manière, ça restera toujours en dehors. C'est toujours le Créateur et nous les créatures, même si cela était.
Alors Israël n'est pas assuré d'une éternité?
Si, mais je vous ai dit, l'éternité, vous savez, ça ne veut rien dire l'éternité. Qu'est-ce que vous croyez que c'est l'éternité? C'est un an plus encore un an, etc. Peut-être c'est une qualité du temps? Pourquoi ce serait obligatoirement de la quantité?
Qu'est-ce que veut dire alors le mot brit?
Brit, ça veut dire alliance. Et on peut faire une alliance. Une alliance. C'est aussi un brit. Mais pourquoi un brit? Le brit de Nisouin, c'est aussi un brit. Ça ne veut pas dire qu'on est éternel.
Donc c'est pas dans
le brit que ça se trouve. C'est le partenaire, c'est Hachem qui, disons, pourrait. On peut penser qu'il va conférer au brit l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il est partenaire, mais il est partie prenante. Si il n'y a pas plus, si vous voulez, dans la création du monde. Donc le monde aussi devrait être éternel à ce titre-là.
Finalement,
Est-ce que Hachem a dit vous aurez l'éternité à cause de ça? Mais c'est pas plus long. Personne ne parle de plus long. Je vous dis justement qu'éventuellement c'est une qualité. Bon, même ce sera la page toute, c'est plus long, mais peut-être c'est simplement une qualité. Plus long, ça voudra jamais dire. Même si on est plus long que les autres, on sera pas, toujours pas éternel avec ça.
On a de fait de l'expérience vécue. Toutes les séries de civilisations qui sont passées et que nous avons vu disparaître.
Mmh.
Et je me suis toujours expliqué cela par le fait qu'il y a un rite avec celui qui est éternel et que ça conférait à ce rite une continuité.
Mais est-ce que, par exemple, et si le rite.
C'est aussi long que celle de l'histoire de l'humanité.
Bon, c'est ça, ça ira pas plus loin. Il n'est pas fait pour effrayer. Seulement ce monde intermédiaire, il va jusqu'à la fin du monde, quoi. Jusqu'à l'usure complète du monde.
Oui.
Donc il n'y aura plus de monde après.
Plus physique, voilà. Peut-être un certain monde qui est défini avec le ciel et la terre. Voilà.
Oui.
Ouais. Il y a plein de gens qui imaginent d'autres mondes. Avec d'autres cieux, d'autres terres.
Il y a des voyages à la planète Terre.
Mais vous croyez où le ciel il va jusqu'à quelle hauteur d'après vous?
Le ciel c'est le cosmos.
Non. Oh oui, parle de la masse. Oui, mais dans l'alliance, cette alliance, elle est sur l'action des hommes. Le monde de l'Olam Haba, c'est plus de l'action. Israël sont dans le monde, donc cette alliance là ils l'ont aussi, ils ont une alliance qui vient en plus, qui vient par dessus celle là si vous voulez. Inclus, ça veut dire quoi ici? Ça voudrait dire quoi?
Ça veut dire qu'elle est limitée. Le bride qu'il y a entre Israël et Akadéo est limité, c'est comme ça que je comprendrais le mot inclus, est limité par le bride qu'il y a entre Akadéo et Ménorah. Parce que, pour être plus précis, c'est que Bnei Israël est un Bnei Noach. Alors que, j'ai cru comprendre qu'il y avait des opinions différentes sur cette expression.
Nous ne sommes plus des Bnei Noach. Et maintenant, certains disent que, par exemple, la loi du roi, c'est la loi des Bnei Noach. Que le roi applique comme en tant que tel, comme loi, quand on n'applique pas la loi du Bédin du Sanhédrin, il y a une loi du roi, certains veulent dire que cette loi-là, c'est la loi d'Ibn Noach. Elle est pour nous en filigrane, en quelque sorte. C'est une loi. On a la loi de la Torah, et si on veut, dans les trous de la loi de la Torah, il reste encore comme filet en dessous la loi d'Ibn Noach. Donc on n'est plus d'Ibn Noach, parce qu'on est au-dessus, mais on est limité effectivement dans la chute, pas vers le haut, vers le bas, par la loi d'Ibn Noach. Bon, alors, si je comprends bien ce à quoi on est arrivé maintenant, c'est de dire que les Bnei Noach auraient pu penser qu'étant donné que l'alliance est une alliance entre Hachem et les hommes, cette alliance, elle serait éternelle, et qu'Hachem vient dire ici, non, cette alliance, elle est limitée, entre le passouk de Zecharia et celui de Yeshayahu Hanavim, en fait, j'ai mis des limites, effectivement, à l'alliance, et des limites, donc, et les limites de l'alliance, c'est que l'alliance ira, elle concerne le monde tel qu'il est. Dans ce monde-ci, voilà mon alliance. Et l'alliance ne va pas au-delà. Cette alliance, elle ne va pas au-delà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, est-ce que c'est Hachem qui rompt l'alliance? Ou est-ce que peut-être, avec cette histoire du maquel, du bâton et tout, est-ce que, d'une certaine manière, est-ce que ça veut dire qu'Hachem va faire en sorte que les hommes rompent cette alliance à la fin des temps? Bon, c'est marqué dans le... ici, dans le Etz... Yosef, non? Non, excusez-moi, c'est dans le Pérouche du Marzou, mais à la page Shin Memchet, où il dit Batorah Mefourash, à peu près au milieu de la partie étroite du Marzou. Batorah Mefourash She'abrit Talui Bashamayim Uvaharet. Dans la Torah, il est explicite que l'alliance dépend Shamaim Vaaretz. Imken, si c'est ainsi, alors ce qui est écrit dans le Pasuk, ce qui est écrit dans le Navi Zecharia, le Navi dit Vetufar, que cette alliance sera rompue, Bayom Ahu, Aynu Beyom She Yitbatlu Shamaim Vaaretz. Quand est-ce qu'elle sera rompue? Le jour où effectivement il n'y aura plus Shamaim Vaaretz. Et le Midrash ici nous enseigne que quand dans le pasouk de Noach, Parshat Noach, on dit Od kol yemei haaretz, etc., que ça porte sur le Mala. Cher le Mala, c'est-à-dire ce qui est au-dessus, c'est écrit Kaliyade Abrit Shekarat Imo, que en fait ça. Ça, c'est la suite de l'alliance qu'Hachem a fait avec les hommes. Et le Brit est explicité dans l'histoire un peu plus bas avec l'histoire de l'arc-en-ciel. Bon, ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah, dans les Psukim et dans le Midrash. Mais Chazal disent que le Brit et la Shvoa, il n'y en est pas. La Shvoa n'iskeret pas sur la Kodem, mais la Shvoa, elle est citée dans le verset précédent. Lo osif le Kalel. Je jure que je ne... C'est la Shvoa. Je jure que je ne maudirai plus. Et puis, là aussi, et je... Il dit, non seulement je ne maudirai plus, mais dans le verset Kafalef, 21, ici, là aussi, od la côte et kol chai. Je ne frapperai plus le vivant comme je l'ai fait. Donc ça, c'est les deux serments, les deux chevaux que que Hachem a faite. Et donc, et ça, c'est la même chose que le brit. Ça, là, souvent, quand Hachem fait un brit, en même temps, il y a une shvoua. Brit ou shvoua. Alliance et shvoua. Du côté de Hachem, c'est en termes de shvoua. Et alors, il dit effectivement que c'est la même, puisque c'est la même chose, ça veut dire c'est toutes ces limitations en fait. Donc l'alliance est là, elle est sous le signe du lo-osif. Je ferai plus. L'alliance, elle sera limitée. Il dit dans le Midrash, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, hein, je pense, il dit Venatan Keshet le Hot Brit, je vois, Hachem a donné cet arc-en-ciel comme signe de l'alliance et du serment, Beino le Venaharetz, entre lui et la terre. C'est en fait l'alliance, elle est avec la terre. Donc l'alliance, elle est avec la terre, mais si la terre ne durera que temps limité, bon ben l'alliance sera limitée, effectivement. Une fois on dit que ça dépend du ciel et de la terre, et une autre fois, dans la deuxième lecture, ça dépend du jour et de la nuit. Le fait que tant que le cycle jour, nuit, etc., sera valable, existera, alors il y aura cette alliance. Et dès que le cycle jour et nuit disparaîtra, tout far bayomahou. Cette alliance, elle sera annulée, elle sera passé ce jour-là. Et alors maintenant, à chaque fois, il dit Migaram lahem sheim redoubi. Après avoir dit l'alliance sera rompue, le Midrash dit dans les deux lectures, il dit mais qui est-ce qui a entraîné la génération d'avant le déluge à se révolter contre moi? Alors toujours c'est cette idée qu'en fait, c'était trop facile. Le monde était un monde beaucoup trop facile. Tout était sous la main. Ils avaient tous les pouvoirs. Il y avait un air. L'air qu'on respirait n'était absolument pas ni trop froid, ni trop chaud, ni pollué, etc. Finalement, on dit, ça revient à dire que, éventuellement, c'était lié à quoi tout ça? C'était lié le fait qu'il n'y ait pas cette cyclicité, justement. C'était lié aux planètes. Et donc, il y a deux opinions. Une opinion que les planètes ne fonctionnaient pas. Ou alors, elles fonctionnaient, mais la trace n'était pas perceptible. Elles n'avaient pas suffisamment d'énergie pour fabriquer du chaud, du froid, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ici qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par le fait que les planètes ne fonctionnaient pas, ou bien les planètes avaient un impact limité? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui, interdépendance, oui. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par interdépendance? Entre qui et qui?
Entre l'intérieur de toutes les planètes.
Les planètes les unes par rapport aux autres, tu veux dire?
Par rapport aux autres et...
Donc essentiellement la Terre par rapport aux planètes.
Même ça peut montrer que c'est un impact au niveau humain.
Oui. C'est-à-dire ?
Chacun suit sa trajectoire sans que prendre en compte celle des autres.
Non, personne ne vous demande de le négliger.
À votre avis, il faut négliger complètement.
Moi ?
Non, je pose une question.
Mais je crois qu'on parle du soleil,
Pardon ?
Je ne pense pas que le Midrash parle.
Non, il parle du soleil aussi, parce que pour lui, il est.
Est-ce qu'on peut s'abstraire du peu de savoir qu'on a, nous, sur les galaxies, le système solaire ?
Si on parle.
Il faut le considérer comme complètement.
Non, mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? D'accord, ne faisons pas abstraction.
On peut tout de même rattraper peut-être le planète. Par le fait qu'aujourd'hui, dans le progrès de ce savoir du système solaire, on vient à penser que si une planète n'est pas à l'endroit précis où elle est,
elle ne pourrait pas, oui. Oui.
Le système solaire n'aura
pas. Oui, d'accord.
C'est étonnant, mais c'est comme ça.
Non, je vois, c'est étonnant. Elle ne peut pas être à notre place.
Que, par rapport à cette rôle central du soleil, semble que Neptune soit à tel endroit ou non. Ça...
Mais Neptune ne pourrait pas être à un autre endroit que l'endroit où elle est.
Pardon ?
Neptune, avec ce qu'elle est, elle ne peut pas être à un autre endroit. Il y a des règles qui font qu'avec la masse qu'elle a, enfin disons, avec la physique qu'elle est, elle ne peut être que là où elle est. Donc vous avez raison que si elle n'était pas là-bas, le système ne tiendrait pas, mais ce n'est pas qu'elle pourrait ne pas l'être. Si elle l'était pas, si elle était, ben ça voudrait dire que les lois ne sont pas les lois actuelles. Je ne présuppose rien du tout, mais pour l'instant, en physique, c'est ça.
Que le texte ne veut pas le prépondérant au soleil.
Pourquoi ici, quand on dit les planètes, il
ne
fait pas la différence entre les étoiles et les planètes. On ne savait pas faire la différence avant. Vous savez qu'il y avait des étoiles qui n'avaient pas de lumière propre, mais enfin bon, les planètes, les corps errants, c'est ça que ça veut dire, oui. C'est... Bon.
On dirait que il n'y avait pas la notion de cycle, il n'y avait pas de...
Oui, avant, il n'y a pas de cycle. Il n'y a pas de cyclicité. C'est pour ça qu'ils veulent dire, éventuellement, donc. Si la cyclicité, elle est due aux planètes, enfin, c'est cette idée d'un système, ben, disons, ben alors... Puisqu'il n'y avait pas de manifestation sur Terre de cela, donc ça veut dire qu'elle ne fonctionnait pas. Tu peux mettre le soleil dedans, simplement le soleil l'a éclairé, mais comme si les choses étaient restées immobiles. C'est bien que ce n'est pas possible, mais c'est ce qu'il dit. Ils disent, ben, ça voudrait dire qu'elles n'ont pas fonctionné. Alors, il dit, mais si, elles ont fonctionné normalement, mais elles n'étaient pas assez puissantes pour nous laisser une trace. Imaginez que les planètes soient sur des orbites beaucoup plus éloignées des nôtres, alors elles n'auraient peut-être pas assez de... La Lune, si elle était beaucoup plus loin, elle n'aurait elle pas d'impact sur les marées. Pardon ? Quoi, sauf le Soleil ? Le Soleil aussi, s'il était...
Si vous voulez, à la Lune, ça marche pour les autres planètes.
Mais non, on ne peut pas faire la supposition. Mais on peut imaginer la source de lumière sans qu'elle soit source d'autre chose. La source de lumière, ça restera toujours source de lumière. Maintenant, ça dépend maintenant si on tourne autour du soleil ou si on ne tourne pas autour du soleil. non, mais en physique, c'est bien sûr que ça ne peut pas marcher, que ça tourne toujours, c'est clair. Mais maintenant, c'est les planètes non plus, elles ne peuvent pas marcher si elles, tournent, si elles ne bougent pas.
C'est elle, elle doit avoir moins d'influence.
Non. Non, non, non. Mais elles ne pourraient pas, elles ne peuvent pas. Ce serait un autre système. C'est le rapport des masses, c'est pas le... Ouais. Non, mais ce qui veut dire, c'est que... Est-ce que ça nous oblige à dire qu'on avait un autre monde, effectivement? Mais en soi, ça ne me dérange pas, c'est ce que je vous ai raconté, que si on imagine que la Terre a perdu de sa masse, alors elle était automatiquement sur une autre trajectoire, et on était dans un monde complètement différent, parce que si elle est sur une autre trajectoire, tout est sur une autre trajectoire. Parce qu'elle a aussi une influence sur les autres, moins grande. Enfin, même si c'est une question de millimètres ou de ce que vous voulez, ça a un impact. Oui, oui. Bon, c'est ça qu'il veut dire. L'oshimshu, ça veut dire ça ne marchait pas. Il dit si, peut-être que c'était la même chose. Peut-être tout le monde n'est pas d'accord que ça a enlevé trois tfachim. Peut-être il y a des. C'est un midrash, donc il peut très bien avoir des gens qui pensent que ça n'a pas enlevé trois tfachim. Que le monde est, c'est une image, on va enlever trois tfachim. Peut-être ça veut simplement dire que jusqu'à trois tfachim, ils avaient réussi à fourvoyer le monde et pas plus bas, en quelque sorte.
Alors, je vais poser une question. Je veux dire, est-ce que c'est scandaleux de supposer que Rabbi Shmuel et Rabbi Yehuda, sur certains points de la physiologie du corps humain ou de peu de connaissances qu'on a aujourd'hui sur le système astral, et qu'ils n'en avaient pas autant qu'aujourd'hui sur certains points? Est-ce que c'est inadmissible?
Que qu'ils n'en avaient pas autant? Oui, pourquoi pas?
Non, bah, je suis en étalage.
S'il fallait que ça.
L'autre fois, déjà, j'ai soulevé le problème du Moach et du élève, et ils connaissaient énormément de choses, il y avait certaines choses qu'ils ne savaient pas très bien. C'est pas pour autant qu'il ne savait pas l'essentiel.
L'essentiel, c'est pas le matériel. C'est... Ce que Chazal dit, c'est du spirituel. C'est pas de... Ils ne sont pas en train de faire de la physique ici.
Il n'y a pas une connexion.
Peut-être pas obligatoirement comme nous on l'entend. Alors ici, finalement, quel était donc le. Quel est le nœud du problème ici? Le Midrash, il est venu nous enseigner quoi, finalement? On a vu ce Midrash, on a dit pas mal de choses. Si quelqu'un, pour résumer, qu'est-ce que le Midrash est venu nous dire? Ça où? Bon, d'accord, j'entends, mais bon, moi je vois pas ça là, mais bon. Je vois pas que les hommes se soient... Oui, ils pensaient qu'au contraire, qu'Hachem conférait l'éternité à tout ce qui touchait, quasiment. Et que donc cette alliance étant une alliance d'Hachem, était valable éternellement. Mais nous, on n'aurait même pas pensé que le Passouk ici envisage très clairement une destruction, une finitude du monde, une usure du monde. Alors, cette idée que le monde s'use, ça c'est une idée que les générations d'avant n'avaient pas, bon, puisqu'ils n'avaient pas cette notion de cyclicité. Donc il n'y a pas de... dire que la Terre s'use, comment elle va s'user? C'est bien cette idée parce que une forme de frottement, d'usure, comme un vêtement qu'on frotte. D'accord. Donc si elle si le ciel se dissipe, justement, parce que j'ai l'impression que ça part comme ça quand on regarde le ciel. Oui, ça, quelque part, c'est ça s'en va. Et alors on dit, bon, ben voilà, c'est parce que les hommes, lorsque ils pensaient cela, alors ils se sont révoltés contre Hachem. Alors, quel est le lien entre les raisons qui sont invoquées ici sur le pour la révolte, à savoir tout allait trop bien, en quelque sorte, c'était trop facile, trop sans aucun effort. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette idée que le monde était éternel. Automatiquement, ils n'envisageaient pas que le monde pouvait s'user, etc. Ils étaient dans un monde éternel. C'est ça l'éternité du monde. Si le monde est éternel, alors il n'y a donc pas de raison de penser que les choses, puisqu'on voit très bien qu'on peut très bien, qu'il n'y a pas le temps n'a pas de, est-ce qu'il fallait dire ça, le temps n'a pas beaucoup d'importance. Bon, si on sème tous les 40 ans, donc, tout était tellement facile, ça, rien ne prenait du temps. Et par conséquent, c'est ça la traduction d'un monde qu'on considère comme éternel, et ça les confortait dans leur idée que le monde était certainement éternel, puisque. Mais alors, et du coup, on peut se révolter contre Hachem. Pourquoi est-ce qu'on peut se révolter contre Hachem? On nous dit. Ils sont révoltés parce que c'était trop facile. Il y a un pasouk comme ça qui dit Vaishman Yishurun Vaivat. C'est-à-dire que quand Yishurun, c'est que l'Israël s'est engraissé, c'est-à-dire quand ça allait trop bien, il se révolte contre Hachem. Quand c'est trop facile, on se révolte.
S'il y a l'éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas la mort. Et s'il n'y a pas la mort, alors, c'est gratuit de se battre contre Hachem.
On peut se révolter, effectivement.
On a tout intérêt à se révolter. Tu te bats contre ton créateur. Et si tu gagnes, c'est magnifique. Ouais, parce que ça veut dire que la création est arrivée à battre son créateur.
C'est ça l'idée de la toute-puissance de. Ouais, c'est postérieur, mais même au moment de la tour de Babel, c'est aussi comme ça. S'imagine que on peut ne prendre d'Hachem que l'énergie qu'il a garantie au monde, en fait, mais refuser sa loi. Ta loi, ça ne nous intéresse pas. L'énergie que tu as promise au monde, ça nous intéresse, et puis on se débrouillera. Pour le reste, on se fera un propre Hachem. On sera notre Hachem à nous. On n'a pas besoin de ton nom. Et là, c'était encore bien plus fort, puisqu'on est des générations avant, une dizaine de générations avant. Donc, il y avait cette idée qu'on peut se révolter contre Hachem, parce qu'il n'y a rien qui. Tout est donné, on n'a pas besoin de se. On n'a pas non plus l'impression qu'on a une aide d'Hachem, puisque les choses ont l'air de se faire comme si c'était des règles, voilà, ça fait partie de la création. La création est elle aussi éternelle. Donc ce sera toujours comme ça. On n'a pas besoin de. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? On est assuré d'avoir à manger, on est assuré d'un bien-être, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, se révolter contre Hachem. Qu'est-ce qui peut manquer? Qu'est-ce qui nous manque? Ben, il manque d'avoir tout le pouvoir. On a tout. Sauf ça. Ben, l'homme, il veut toujours tout. Justement, réfléchir à quoi? Oui, évidemment, mais.
Et si
Nous y étions. Si vous voulez, ça fait partie de l'humanité.
Oui.
C'est-à-dire, c'est comme ça, l'homme veut plus. Donc si maintenant il a tout. Bon ben, il voudra la seule chose qui lui manque, c'est-à-dire la position du Créateur. Alors pour pallier ça, pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'Hachem propose? Qu'est-ce qu'Hachem fait alors? Il met en marche les mazalotes, quoi, quelque part. Il fait apparaître. Alors, qu'est-ce qu'il fait apparaître? Qu'est-ce que fait apparaître des cycles, etc. Et alors, qu'est-ce que ça fait, ça?
La cyclicité, c'est la vie et la mort.
Donc, on introduit véritablement la présence dans la vie de la mort. La mort n'est pas seulement là en tant que mort, mais elle est là dans tout le cycle de la nature, dans l'hiver, l'été, enfin tous ces cycles-là. La mort est sans arrêt en représentation devant nous.
Elle a du sens.
C'est
aussi un pouvoir intermédiaire.
C'est
aussi un pouvoir intermédiaire.
C'est ça, il va peut-être qu'effectivement, mais ça c'est un risque d'une c'est le risque d'un autre type d'idolâtrie, quoi. Avant le Maboul, il y avait de l'idolâtrie, mais l'idolâtrie n'était pas une idolâtrie des planètes, en quelque sorte, des différentes forces dans le monde, puisque c'était l'idolâtrie du type on va faire ce qu'on a envie de faire quelque part, et on veut être soi-même. C'est une déification de soi-même. C'est pas. On a vu que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis à diviniser nos propres actes. Mis à utiliser des mots de Kodesh dans le Chol, quoi, quelque part. Ils ont profané cette fameuse notion de la profanation avant. La profanation, mais il n'y avait que ça à faire, en quelque sorte, puisqu'il n'y avait pas d'autre pouvoir que celui d'Hachem. Donc tout ce qu'on pouvait faire, c'était le profaner. Et après, ce que Hachem a fait, c'est qu'il a introduit l'intermédiaire, mais du coup, les intermédiaires sont des intermédiaires qu'on peut aussi idolâtrer. Ça ouvre la porte à un autre type d'idolâtrie.
En même temps, le fait qu'il parle après du calendrier, du comptage du temps, c'est qu'on a l'impression qu'il donne la possibilité à l'homme là, de utiliser les modes de fonctionnement du monde, selon les mazalot, mais avec les lois d'Hachem, qui la première étant de compter le temps, enfin d'essayer d'avoir prise sur le temps. Donc,
oui, après cette partie-là,
plutôt,
c'est un peu difficile.
Ça donne une responsabilité à l'homme.
Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Yehuda et les monnaies, il y en a qui commencent à compter à partir de Cheshvan, les autres commencent à la mi-Tishri ou bien au début de Tishri. Qu'est-ce que c'est que ces différents comptes? pas marqué ici directement. Que ça peut bien faire que est-ce qu'on met Oh, il était loin d'être ignare.
Pour même saisir, se mettre face à Shem, il faut un madrigal.
Bah, ils étaient madrigal. Ils étaient très proches d'Adam Harishon.
Il y a une chute vertigineuse.
Il y a une chute, parce que nous on le décrit ça comme une chute vertigineuse. Mais c'était pas si vertigineux que ça. Ça veut dire, bien sûr que c'est vertigineux au sens, mais relativement à nous, si vous voulez, ils étaient encore bien plus grands après tout ce qu'on dit.
Ce que j'ai toujours imaginé, c'est la génération de Maboul et d'avant, comme.
Vous pensez que c'était Cro-Magnon?
À peu près.
C'était pas ça. Oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment un temps que c'est un ode, ça durera, quoi, quelque part. Ode, ça veut dire. Hein.
Mais parce que si ode, ça durera encore.
Oui.
Si ça durera encore, c'est-à-dire c'était éternel, ça durera encore éternellement.
Ça durera en ode autant que. Non, Adam,
c'est plus
autant.
Voilà, encore.
Ça se prolongera aussi longtemps que se prolongera l'existence de ces ans.
Oui, mais c'est ça l'ambiguïté, c'est-à-dire que. Ici, le texte, il dit un ode, et on n'en voit pas la fin. Et c'est pour ça qu'il dit qu'est-ce que pensaient les Bnei Noir. Ils pensaient que ça serait ode jusqu'à la fin. Un sans fin. Et justement, il dit il y a les psukim du Nard, d'ailleurs. Bah, ça veut dire que, comme si, de la Torah elle-même, on ne voyait pas qu'il y avait une fin. Cette notion de fin, elle est introduite avec des psukim qui appartiennent au Nar, qui appartiennent aux prophètes, Yeshayahu et Zecharia. Comme si, l'ambiguïté, elle est là, et elle ne sera levée que grâce aux Nevi'im, qui eux expliciteront le fait qu'il y a un terme, qu'il y a une usure, etc.
Et comment ça s'ajuste avec. Le serment, la choix d'Hachem.
Alors justement, donc il faut regarder comment ça fonctionne avec ça. Alors en vérité, c'est ça qui nous dévoile le serment d'Hachem. Qu'est-ce que c'était que ce serment d'Hachem? Jusqu'où est-ce que ce bride, ce serment, ou allait? Seulement de la Torah, on ne le voyait pas.
D'autant plus qu'il y a là aussi Od.
Le Kalel Od, oui. Je ne ferai pas. Mais là, il l'a déjà fait. Le Kalel Od, c'est ce qu'il a fait avec le déluge.
Mais
Regardez la différence. Vous avez le texte devant vous. Regardez la différence. Il y a une différence fondamentale entre les autres que vous avez cités et celui-là.
Oui, il y a.
Or, si vous n'aviez pas la Kabbalah, que c'était Od, vous auriez lu Ad. Et Ad, ça dit vraiment la limite. Ad, c'est jusqu'à. Alors, c'est ponctué pour faire Od. Encore, mais c'est un Od avec un Ad, en vérité. Et le Had, il est explicité par les Nevi'im. Les Nevi'im disent que ce Had-là, c'est un Had en réalité.
Il pourrait se transformer en Had.
Oui, c'est-à-dire en fait, sa graphie, c'est Had. Si on n'a pas une Kabbalah pour lire Had, on ne va pas lire Had. Si vous mettez ce texte devant n'importe
ça
qui...
Ça veut dire Had-Tikra, Had et la Od.
Oui, comme ça. Faut que, c'est, parce que si vous mettez ça devant un enfant qui sait lire l'hébreu, il ira Ad. Il ira jamais Od. S'il ne connaît pas le verset. Alors, bien sûr, on a une difficulté. Parce que ce que veut dire Ad kol yemei haaretz. Jusqu'à que soient épuisés tous les jours de la terre. Quelque chose comme ça. C'est jusqu'à ce que Kolyemé arrête, et nous on va le lire Od, ça veut dire il pensait Od, comme si au fond ce Had et ce Od là en opposition justement dans les mêmes versets quasiment viennent justement dire qu'est-ce que pensaient les Bnei Noirs. Ils pensaient que c'était un Od. Disent comme un Od, mais s'ils avaient fait attention, c'est écrit Ad, mais c'est intéressant que le Midrash ne le dise pas. Le Midrash, il comptait sur nous, quoi, pour voir nous-mêmes la différence. Bon, il reste effectivement à comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces espèces de demi-mois qu'on met dans l'automne ou dans l'été, pourquoi on commencerait en Tishri ou en Mi-Tishri ou en Cheshvan?
C'est le débat sur le réchauffement climatique.
Oui. Pardon, il y a des...
C'est sans arrêt.
Oui, non, mais pourquoi l'un commence à Tishri et l'autre commence en Cheshvan et l'autre commence à Mi-Tishri? C'est-à-dire qu'il y en a deux qui considèrent. Non, enfin, il y en a un qui considère que ça ne correspond pas avec les mois, quoi. Non, il ne prend pas des mois. Donc, comme il y a six périodes, c'est chaque fois deux mois, au lieu de prendre des mois entiers, il se met à cheval. Il commence au milieu d'un mois, au milieu du mois de Tishri. Donc, du coup, tout est décalé, tout va se faire. Et en vérité, si on regarde ce à quoi ça correspond, c'est les pleines lunes, quoi. Est-ce qu'il commence des saisons à des pleines lunes, ou est-ce qu'on commence des saisons les six saisons en l'occurrence, à la nouvelle lune?
Parce que dans certains cas, il dit c'est par exemple la période des semailles ou des grands froids, enfin des choses naturelles, quoi qu'elles soient. Et puis dans d'autres cas, il dit c'est l'hiver ou c'est l'été. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est l'hiver ou c'est l'été?
Bon, je crois que l'hiver et l'été, d'après ça, c'est plutôt un printemps et un automne.
Oui, mais
parce qu'il dira chom et kor à part. Les noms, oui, les noms, c'est marqué qu'ils viennent de Babel.
Oui, il y avait toujours 12 mois.
Dans la Torah, ils n'ont pas de nom.
Non, il y a le numéro.
Oui.
Mais
Oui.
D'autres non.
Oui. Chodesh Ziv. Temps, je parlais fréquemment avec quelqu'un qui était de la campagne. Il me disait toujours que ça dépendait de la nouvelle lune. Lui, il avait sa théorie que les changements de temps sont toujours à la nouvelle lune. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ça qu'ils disent? Ils disent tous comme ça ou bien lui, il était un numéro spécial? En Normandie, mais en général ça marchait. Il faut dire qu'il me le disait surtout quand ça marchait. Mais... non, mais on savait. Oui, alors ça je sais pas expliquer quelle est la marloquette de ces trois opinions là. Oui, c'est toute l'histoire, c'est une façon de se décaler, quoi. Simplement. C'est sûr que par exemple, si on considère que Chatzi Nissan, Iyar et Chatzi Sivan, c'est Katsir, ça marche bien du point de vue Pessah, quoi. Parce que Pessah, c'est le moment où on commence la moisson de l'orge. Et Shavuot, donc Chatzi Sivan, c'est le moment où le blé est mûr. Donc d'après ça, c'est Katsir, c'est vraiment le temps de la moisson. Le temps de...
Et ils ne font pas ici allusion à l'agrément de la saison, c'est-à-dire
qu'il faisait tout. Oui, enfin, ça c'est. Vous avez remarqué qu'il y a 6 saisons ici. Mmh. Oui. Pas 4, mais 6. Donc le froid et le chaud sont une saison, enfin, sont deux saisons distinctes. Elles sont distinctes de le kites, qui semble être ici plus tôt. Aujourd'hui, kites, ça veut dire l'été, mais là. Ça ressemble plus à un printemps, à la bonne partie du printemps, et en été effectivement l'été c'est moins agréable, l'été c'est chum, c'est trop chaud, quoi. C'est sûr que par exemple en Eretz Israël en été il fait trop chaud. Que ce soit agréable. L'agréable, c'est la période plutôt de la fin du printemps. Bien, on va s'arrêter là.
Le calage, c'est, il s'agit de trouver justement des choses perceptibles.
De. Oui.
Caler par rapport à des choses qui sont perceptibles maintenant.
Oui, mais bon, ils ont tous. S'ils disent. Après ça, on pourrait. Tout est perceptible. Ah, on a un mignon. Il y en a 6 qui n'ont pas prié, en tout cas. Ça va. Parfait.